Arnold Joseph Toynbee est un historien anglais du XXe siècle qui s'est rendu célèbre pour avoir composé une œuvre en 12 volumes qui analyse l'ascension et la chute des civilisations. De 1918 à 1950, cet homme respectable est le principal conseiller du gouvernement britannique sur les questions internationales et plus particulièrement le Moyen-Orient. Bon, et alors ? Eh bien, cet historien a aussi déclaré que l'ancienne ville de Babylone, reconstruite, serait le site idéal pour un centre politique et culturel. Dans les chapitres 17 et surtout 18 de l'Apocalypse, l'antique Babylone est très souvent mentionnée. Celle du chapitre 17 est de nature ecclésiastique, car elle représente le système religieux apostat et universel de la première moitié de la tribulation et son quartier général sera Rome. Ce système est détruit avec perte et fracas par la bête, l'Antichrist, qui se déclare Dieu, installe son image dans le temple de Jérusalem et exige l'adoration du monde entier. En parallèle, l'antique ville de Babylone sur l'Euphrate devient la capitale économique et politique de l'empire de l'Antichrist. Dans le chapitre 18, Babylone est appelée « ville » 7 fois en 5 versets, ce qui montre qu'il s'agit d'un lieu géographique et que la Babylone antique sera reconstruite sur l'Euphrate. D'autres caractéristiques du texte confirment ce point de vue, comme le fait qu'elle est entièrement réduite en ruine au moment du retour de Jésus sur terre. Cette destruction a d'ailleurs été prophétisée dans l'Ancien Testament, mais n'a été que partiellement accompli. En effet, selon Ésaïe ou Jérémie, Babylone sera détruite à une époque où les étoiles et le soleil s'obscurciront. Ce sera un temps de jugement pour l'ensemble des nations du monde. Sa ruine est en rapport avec Lucifer qui est précipité dans le séjour des morts, et sa destruction est suivie d'une paix et d'un repos universel. Or, ces événements ne se sont pas encore produits, ni quand Babylone fut partiellement brûlée par les Mèdes sous Cyrus le Grand, ni plus tard, quand elle fut à nouveau détruite par l'empereur Perse. Ésaïe et Jérémie écrivent aussi que Babylone sera déserte à tout jamais, ni homme ni bête n'y pénétrera, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ces deux prophètes annoncent encore que la ville sera aussi déserte que Sodome et Gomorre, entièrement brûlée, où rien ne subsistera. Enfin, Jérémie écrit que les pierres de Babylone ne serviront plus à rien, alors que les décombres actuels sont souvent utilisés et réutilisés dans diverses constructions. La ville antique de Babylone est aujourd'hui en ruine. L'ancien dictateur Saddam Hussein avait vaguement parlé de la reconstruire, mais il avait d'autres soucis. Babylone occupe toujours une position stratégique, car elle se situe au carrefour de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Elle est proche du golfe Persique, à proximité des gisements de pétrole les plus riches du monde, et peut facilement s'alimenter en eau. Si pendant la seconde moitié de la tribulation, Jérusalem sera le centre religieux de la bête, sa capitale politique sera Babylone. Nous arrivons maintenant au chapitre 18 qui est un requiem, un chant funèbre, qui décrit la destruction du dernier et du plus grand empire humain. Je commence à le lire. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir. Et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Verset 1. Comme précédemment, l'expression « après cela » ouvre une nouvelle fenêtre de la vision de Jean. Dans le livre de l'Apocalypse, les anges sont très présents, jouissent d'une grande autorité et ont beaucoup à dire. La dignité de cet ange-ci par rapport au précédent rappelle une description de la venue de l'Éternel par le prophète Ézéchiel qui écrit que par la présence de Dieu, la terre était illuminée de sa gloire. Ici pourtant, il ne s'agit pas de Dieu, mais d'un être créé, élevé certes, mais simplement un autre ange. On le sait parce que le mot pour autre signifie un autre du même type que les précédents. Puisque le thème de ce chapitre est la chute de Babylone, cet ange est peut-être bien celui qui auparavant a déjà dit « Elle est tombée, la grande Babylone est tombée, celle qui fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse prostitution. » Le jugement annoncé va maintenant être exécuté. Que ce soit ici ou précédemment, chaque fois que l'ange annonce la chute de Babylone, le temps du verbe est une forme du passé, alors que l'événement n'a pas encore eu lieu. Mais comme il ne fait pas l'ombre d'un doute que Babylone va être détruite, son jugement est considéré comme un fait établi. Quand Dieu décide une course d'action, qui l'empêchera d'agir? Les prophètes Ésaïe et Daniel écrivent respectivement « Voici, les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici les îles et les régions côtières. Il les soulève comme de la poussière. Toutes les nations à ses yeux sont comme rien. Elles ont pour lui la valeur du néant et du vide. Devant l'Éternel, tous les habitants de la terre ne comptent pour rien. Il agit comme il entend. Il agit comme il l'entend envers l'armée des êtres célestes et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses intentions ou lui dire « Que fais-tu là ?» Il y a une vérité incontournable qui ne fait aucun doute. C'est Dieu qui dira le dernier mot dans l'histoire de l'humanité et ce sera un mot de jugement. Suite à la cinquième coupe, la terre a été plongée dans les ténèbres. On ne sait pas si elles sont toujours présentes, mais si oui, cet ange fait une entrée spectaculaire puisqu'il illumine la terre de sa gloire. De plus, tout le monde pourra l'entendre car, dit le texte, il cria d'une voix forte « elle est tombée, la grande Babylone !» Et elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables. Verset 2. Cette nouvelle annonce de la chute de Babylone est tirée d'Ésaïe et a lieu au moment où la septième coupe est déversée, car le texte dit qu'à cette occasion, la grande ville, c'est-à-dire Jérusalem, se disloqua en trois parties et les villes de tous les pays s'écroulèrent. Alors Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner à boire la coupe pleine du vin de son ardente colère. On sait que d'innombrables esprits impurs ont été libérés suite aux sonneries de la cinquième et sixième trompettes, et d'autres ont été jetés du ciel avec Satan. Une fois que Babylone sera détruite, un grand nombre de démons y sera confiné, mais bien contre leur gré, car Jésus a dit que lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans des lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se peut même que ces démons seront incarcérés dans les ruines de Babylone pendant la durée du millénium. Cependant, ils seront en bonne compagnie puisqu'ils partageront ce lieu maudit avec toutes sortes d'oiseaux impurs et détestables. Le texte ne dit pas lesquels, mais ils font certainement partie des listes qu'on trouve dans la loi de Moïse. La description que nous fait Jean de Babylone est une ville entièrement dévastée comme le fut Hiroshima ou Nagasaki sur un peu plus d'un kilomètre tout autour de l'explosion de la bombe. Je continue le texte. « Elle est tombée, la grande Babylone, car toutes les nations ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la débauche, et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. » Verset 3. La première remarque qu'on peut faire est qu'avant sa destruction, Babylone est une grande ville prospère, un poumon économique d'une très grande importance, puisqu'elle a séduit le monde entier et a étendu son influence à toutes les nations du monde. De toute évidence, les habitants de la terre sont mordus de matérialisme. Ils veulent absolument et passionnément une part du gâteau de Babylone. Le maître mot est de s'enrichir à tout prix. Je continue. Puis j'entendis encore une autre voix venant du ciel qui disait « sortez du milieu d'elle, membre de mon peuple, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas être frappé avec elle des fléaux qui vont l'atteindre. » Verset 4. Babylone, ville à fuir, s'oppose à la Nouvelle Jérusalem qui rassemblera tous les élus auprès de Dieu. Jean entend une autre voix venant du ciel. Ici encore, il s'agit d'un ange pour la même raison que précédemment. Le mot employé pour « autre » veut dire « autre » mais du même type. Cet appel, sorti du milieu d'elle, est évidemment adressé au peuple de Dieu et il est probable que seuls ses membres entendent cette voix. Il faut aussi se rendre à l'évidence que si l'ange donne cet ordre, c'est parce que certains croyants débrouillards ont non seulement réussi à échapper à la Gestapo de l'Antichrist, mais arrivent en plus à faire des affaires sans porter la marque de la bête, ce qui laisse entendre que le marché noir va bon train. Il faut en effet savoir que tous les habitants de la terre n'ont pas accepté de se faire tatouer par la bête. Les croyants ont refusé, mais bien d'autres gens aussi pour diverses raisons. Ce sont ces résistants qui ont créé le marché noir. Or, parmi eux, au fil des jugements, beaucoup sont devenus croyants et pour survivre, ils ont continué leurs transactions secrètes. Mais maintenant que l'heure du châtiment de l'Empire de l'Antichrist a sonné, Dieu envoie son ange pour dire aux siens d'arrêter leur magouille et de fuir Babylone avant qu'ils ne la détruisent. Cette exhortation de quitter une ville maudite trouve plusieurs parallèles dans les Écritures et le premier est dans le livre de la Genèse quand deux anges sont descendus pour dire au neveu d'Abraham, Lot, qui habitait Sodome, « Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville, des gendres, des fils et des filles? Qui que ce soit, fais-les sortir de là, car nous allons détruire cette ville, parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusqu'à devant l'Éternel. » Le second parallèle à quitter une ville maudite dans les Écritures concerne l'antique Babylone où les Israélites avaient été déportés. On trouve cette exhortation à fuir chez le prophète Ésaïe et surtout Jérémie qui écrit « Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie. Ne soyez pas détruits à cause de son crime, car c'est le temps où l'Éternel va la rétribuer, où il va lui payer ce qu'elle a mérité. « Sortez du milieu d'elle, vous membres de mon peuple, et que chacun sauve sa vie quand la colère ardente de l'Éternel se manifestera. » Aujourd'hui aussi, les croyants doivent se garder de faire comme tout le monde, de participer au système et de toute forme du mal. Dans l'une de ses épîtres, l'apôtre Paul écrit « Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. » En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. Je continue le texte. « Sortez du milieu de Babylone, membres de mon peuple, afin de ne pas être frappés avec elle des fléaux qui vont l'atteindre, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. » Verset 5. Les fléaux qui vont détruire Babylone sont spécialement dirigés contre cette ville maudite qui est un foyer purulent du mal. La ville a probablement été frappée en même temps que la septième coupe, quand il est dit que Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner à boire la coupe pleine du vin de son ardente colère. Les péchés de Babylone se sont amoncelés, un participe qui signifie « coller ou joindre ensemble ». C'est comme une nouvelle tour de Babel, mais au lieu d'être en briques, elle est virtuelle, faite de toutes les formes du mal, et elle monte jusqu'au ciel. Mais tout comme l'Éternel avait remarqué la tour en dur, fruit de l'arrogance des hommes, et est descendu du ciel pour la voir, il a vu cette nouvelle tour constituée de péché. Cette idée de faute, tellement grave qu'elles atteignent le ciel, se retrouve trois autres fois dans les Écritures. Pour la ville de Sodome, de Ninive, capitale de la Syrie, et de l'antique Babylone. Je continue le texte. Traitez Babylone comme elle a traité les autres, payez-la au double de ses méfaits, et dans la coupe où elle donnait à boire aux autres, versez-lui une mixture deux fois plus forte. Verset 6. L'ange s'adresse à un auditeur caché, sans doute l'ange bourreau, chargé d'exécuter la sentence de la septième coupe. Ce jugement est aussi la réponse à la prière des martyrs quand ils ont dit « Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ?» La déclaration de l'ange pour que justice soit faite s'appuie sur la loi du talion qui fonctionne selon le principe « œil pour œil et dent pour dent ». Dans un psaume d'imprécation contre les Chaldéens, on lit « Ô Babylone, tu seras dévasté, heureux qui te rendra ce que tu nous as fait. » Je continue le texte. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant donnez-lui de tourments et de malheurs. « Je trône ici en reine, se disait Babylone, je ne suis pas veuve. Non, jamais je ne connaîtrai le deuil. » Verset 7. Les habitants de Babylone vont être jugés pour plusieurs raisons. Ils sont coupables d'autosuffisance, d'arrogance et de vivre dans la splendeur et le luxe. La ville exprime sa pleine confiance en elle et en ses richesses, mais cet orgueil lui vaut la condamnation de Dieu. La destruction de Babylone sera soudaine et brusque. C'est aussi ce qui est arrivé à l'antique Babylone qui fut conquise en une seule nuit. Le texte dit que le prophète Daniel a dit à Balthazar, roi de Babylone, « Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, et tu t'es fait apporter les coupes de son temple. Puis toi, et tes hauts dignitaires, tes femmes et tes concubines, vous avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre. » Mais le Dieu qui tient ton souffle de vie dans sa main et de qui dépend toute ta destinée, tu ne l'as pas honoré. » Dans la même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué. Je continue le texte. Voilà pourquoi, en un seul jour, Babylone verra tous les fléaux fondre sur elle, épidémie, deuil et famine. Elle-même sera consumée par le feu. Car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur. Versets 7 et 8. Quand l'Éternel fait une déclaration, c'est comme si ce qu'il dit était déjà fait. Le prophète Ésaïe écrit « C'est moi qui suis Dieu. Oui, je le suis depuis toujours, et il n'y a personne qui puisse arracher de ma main ce que je réalise. Qui pourrait l'annuler ? Dès le commencement, j'annonce l'avenir. » Et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore, c'est moi qui dis, et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. La Babylone de la fin des temps va connaître plusieurs fléaux. En une seule journée, une épidémie va tuer un grand nombre d'habitants, et le feu détruire entièrement la ville et toutes les réserves de nourriture. Suite à ce drame, le monde entier prendra le deuil et les survivants souffriront de la famine. Je continue le texte. Alors les rois de la terre qui ont partagé avec Babylone sa vie de débauche et de luxe pleureront et se lamenteront sur elle en voyant monter la fumée de la ville embrasée. Verset 9. Ils vont pleurer de chaudes larmes parce qu'ils ont tout perdu. Aujourd'hui, la principale place financière est New York. Paris dicte la mode, les diamants s'échangent à Londres, et c'est de Hollywood que sortent les films à grand spectacle. Mais pendant la tribulation, et surtout dans la seconde moitié, c'est Babylone qui sera le centre du monde. Pourtant, sa gloire sera brève et entrecoupée de terribles fléaux qui frapperont la terre. Mais personne n'imagine alors que la tête de l'empire de l'Antichrist sera détruite. Pourtant, alors que le soleil se couche, il ne reste de cette puissante cité qu'un tas de ruines fumantes. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et les habitants de la terre sont en état de choc. C'est la consternation, car comme jusqu'à présent la ville a survécu à tous les fléaux, on la croyait invulnérable. Mais maintenant, de profondes lamentations se font entendre un peu partout dans le monde. Auparavant, les rois n'ont pas hésité à se débarrasser de la mystère Babylone, le système religieux ancré à Rome, et de le remplacer par un culte à l'Antichrist seul. Puis ces mêmes dirigeants ont fricoté avec Babylone politique et commerciale, parce qu'elle leur remplissait les poches. Mais maintenant, c'est terminé, et sa destruction signifie la fin de l'empire du mal.